et comme tous deux parlaient de choses indifférentes, ils vivaient depuis ce temps-là dans une entière sécurité.
Avec raison, n'est-ce pas ?
Dit amèrement Frédéric.
Oui, sans doute.
Elle aura mieux fait de ne pas risquer un pareil mot.
Un jour, elle ne se trouva point chez elle à l'heure où il avait coutume d'y venir. Ce fut pour lui comme une trahison. Il se fâcha ensuite de voir les fleurs qu'il apportait toujours plantées dans un verre d'eau.
Où voulez-vous donc qu'elles soient ?
Oh, pas là. Du reste, elles y sont moins froidement que sur votre cœur.
Quelque temps après, il lui reprochait d'avoir été la veille aux Italiens, sans le prévenir. D'autres l'avaient vu, admiré, aimé peut-être. Frédéric s'attachait à ses soupçons uniquement pour la quereller, la tourmenter, car il commençait à la haïr. Et c'était bien le moins qu'elle eût une part de ses souffrances. Une après-midi, vers le milieu de février, il la surprit fort émue. Eugène se plaignit de mal à la gorge. Le docteur avait dit pourtant que ce n'était rien, un grand rhume, la grippe. Frédéric fut étonné par l'air ivre de l'enfant. Il rassura sa mère néanmoins, cita en exemple plusieurs bambins de son âge qui venaient avoir des affections semblables et qui s'étaient vite guéris.
« Vraiment ?»«
Mais oui, bien sûr.
Oh, comme vous êtes bon !»
Elle lui prit la main, il l'étreignit dans la sienne.
« Oh, laissez-la.
Qu'est-ce que cela fait puisque c'est au consolateur que vous l'offrez ?
Vous me croyez bien pour ces choses et vous doutez de moi quand je vous parle de mon amour.
Je n'en doute pas, mon pauvre ami.
Pourquoi cette défiance ? Comme si j'étais un misérable capable d'abuser.
Oh non !
Si j'avais seulement une preuve.
Quelle preuve ?
Celle qu'on donnerait au premier venu, celle que vous m'avez accordée à moi-même. »
Et il lui rappela qu'une fois, ils étaient sortis ensemble, par un crépuscule d'hiver, un temps de brouillard. Tout cela était bien loin maintenant. Qui donc l'empêchait de se montrer à son bras, devant tout le monde, sans crainte de sa part, sans arrière-pensée de la sienne, n'ayant personne autour d'eux pour les importuner ?
« Soit, » dit-elle, avec une bravoure de décision qui stupéfia d'abord Frédéric. Mais il reprit vivement.
« Voulez-vous que je vous attende au coin de la rue Tronchet et de la rue de la Ferme ?»«
Mon Dieu, mon ami !»
balbutiait Madame Arnoux. Sans lui donner le temps de réfléchir, il ajouta.
« Mardi prochain, je suppose. »«
Mardi ?»«
Oui, entre 2 et 3 heures.
J'y serai. »
Et elle détourna son visage par un mouvement de honte.
Frédéric lui posa ses lèvres sur la nuque.
« Oh, ce n'est pas bien, » dit-elle.
« Vous me feriez repentir. »
Il s'écarta,
redoutant la mobilité ordinaire des femmes, puis, sur le seuil, murmura doucement, comme une chose bien convenue,
« À mardi !»
Elle baissa ses beaux yeux d'une façon discrète et résignée. Frédéric avait un plan. Il espérait que, grâce à la pluie ou au soleil, il pourrait la faire s'arrêter sous une porte, et qu'une fois sous la porte, elle entrerait dans la maison. Le difficile était d'en découvrir une convenable. Il se mit donc en recherche, et vers le milieu de la rue Tronchet, il lut de loin, sur une enseigne, appartement meublé. Le garçon, comprenant son intention, lui montra tout de suite, à l'entresol, une chambre et un cabinet avec 2 sorties. Frédéric la retint pour 1 mois et paya d'avance. Puis il alla dans 3 magasins, acheter la parfumerie la plus rare. Il se procura un morceau de fausse guipure pour remplacer l'affreux couvre-pied de coton rouge. Il choisit une paire de pantoufles en satin bleu. La crainte seule de paraître grossier le modéra dans ses emplettes. Il revint avec elle, et plus dévotement que ceux qui font des reposoirs, il changea les meubles de place, drapa lui-même les rideaux, mit des bruyères sur la cheminée, des violettes sur la commode. Il aurait voulu paver la chambre tout en or. « C'est demain, » se disait-il. « Oui, demain. Je ne rêve pas. » Et il sentait battre son cœur à grands coups sous le délire de son espérance. Puis, quand tout fut prêt, il emporta la clé dans sa poche, comme si le bonheur qui dormait là avait pu s'envoler. Une lettre de sa mère l'attendait chez lui.
« Pourquoi une si longue absence ? Ta conduite commence à paraître ridicule.
Je comprends que, dans une certaine mesure, tu aies d'abord hésité devant cette union. Cependant, réfléchis. »
Et elle précisait les choses. 45 000 livres de rente. Du reste, on en causait. Et M. Rock attendait une réponse définitive.
Quant à la jeune personne, sa position véritablement était embarrassante.
« Elle t'aime beaucoup. »
Frédéric rejeta la lettre sans la finir et en ouvrit une autre, un billet de Delaurier.
« Mon vieux, la poire est mûre.
Selon ta promesse, nous comptons sur toi. On se réunit demain au petit jour, place du Panthéon. Entre au café Soufflot. Il faut que je te parle avant la manifestation. »
« Ah, je les connais, leurs manifestations, mille grâces. J'ai un rendez-vous plus agréable. » et le lendemain, dès 11 heures, Frédéric était sorti. Il voulait donner un dernier coup d'œil aux préparatifs, puis, qui sait, elle pouvait, par un hasard quelconque, être en avance. En débouchant de la rue Tronchet, il entendit derrière la Madeleine une grande clameur. Il s'avança et il aperçut au fond de la place, à gauche, des gens en blouse et des bourgeois. En effet, un manifeste publié dans les journaux avait convoqué à cet endroit tous les souscripteurs du banquet réformiste. Le ministère, presque immédiatement, avait affiché une proclamation l'interdisant. La veille au soir, l'opposition parlementaire y avait renoncé. Mais les patriotes, qui ignoraient cette résolution des chefs, étaient venus au rendez-vous, suivis par un grand nombre de curieux. Une députation des écoles s'était portée tout à l'heure chez Odilon Barrault. Elle était maintenant aux affaires étrangères, et on ne savait pas si le banquet aurait lieu, si le gouvernement exécuterait sa menace, si les gardes nationaux se présenteraient. On en voulait aux députés comme au pouvoir. La foule augmentait de plus en plus quand tout à coup vibra dans les airs le refrain de la Marseillaise. C'était la colonne des étudiants qui arrivait. Ils marchaient au pas, sur deux files, en bon ordre, l'aspect irrité, les mains nues, et tous criant par intervalles « Vive la réforme ! À bas Guizot !» Les amis de Frédéric étaient là, bien sûr. Ils allaient l'apercevoir et l'entraîner. Il se réfugia vivement dans la rue de l'Arcade. Quand les étudiants eurent fait deux fois le tour de la Madeleine, ils descendirent vers la place de la Concorde. Elle était remplie de monde, et la foule tassée semblait, de loin, un champ d'épinoirs qui oscillait. Au même moment, des soldats de la ligne se rangèrent en bataille à gauche de l'église. Les groupes stationnaient cependant. Pour en finir, des agents de police en bourgeois saisissaient les plus mutins et les emmenaient au poste, brutalement. Frédéric, malgré son indignation, resta muet. On aurait pu le prendre avec les autres et il aurait manqué Madame Arnoux. Peu de temps après, parurent les casques des municipaux. Ils frappaient autour d'eux à coups de plat de sabre. Un cheval s'abattit. On courut lui porter secours, et dès que le cavalier fut en selle, tous s'enfuirent. Alors, il y eut un grand silence. La pluie fine, qui avait mouillé l'asphalte, ne tombait plus. Des nuages s'en allaient, balayés mollement par le vent d'ouest. Frédéric se mit à parcourir la rue Tronchet, en regardant devant lui et derrière lui. 2 heures enfin sonnèrent. « Ah, c'est maintenant, » se dit-il. « Elle sort de sa maison, elle approche. » Et, une minute après, elle aurait eu le temps de venir. Jusqu'à 3 heures, il tâcha de se calmer. Non, elle n'est pas en retard, un peu de patience. Et par désœuvrement, il examinait les rares boutiques, un libraire, un cellier, un magasin de deuil. Bientôt, il connut tous les noms des ouvrages, tous les harnais, toutes les étoffes. Les marchands, à force de le voir passer et repasser continuellement, furent étonnés d'abord, puis effrayés,